Panorama Économique.
Madame, messieurs, bienvenue à Panorama Économique, une rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Capi. Au sommaire, le feuilleton de la liquidation des entreprises Stuc et Cititrain se poursuit. Les agents de ces entreprises ne sont pas d'accord avec le propos du ministre des Transports sur nos antennes la semaine dernière. Le syndicat souligne que, contrairement à ce que pense le ministre Justin Kalumba, ces agents ne réclament pas d'être engagés par Transco, mais plutôt le respect de la procédure d'une liquidation. Journée porte ouverte à l'intention de la presse mercredi au bureau de la Banque mondiale ici à Kinshasa. Cette institution a voulu par cette occasion présenter ses différents projets financiers en RDC et leur impact. Déjà dans le secteur électricité, la Banque mondiale a mis 1,2 milliard de dollars américains. À suivre également dans ce panorama économique, la visite du Premier ministre Matata Ponyo au chantier de construction de l'aérogare modulaire Andjili. Travaux financés à hauteur de 21 millions de dollars américains sur fonds propres du gouvernement congolais exécuté par la firme française Alpha Airport. Paul Matendo et François Kadima à la présentation de Panorama économique de ce samedi. Nous avons comme invité pour analyser et commenter l'actualité économique ce samedi. Bienvenue Bakoumania, les responsables du desk économie investigation au groupe de presse Le Potentiel. Bonjour, bienvenue.
Bonjour François, bonjour Paul.
Merci d'être avec nous dans Panorama économique.
Panorama économique, le dossier.
Voilà, Paul Matendo, nous allons commencer avec le premier dossier. Les agents de la Stuc ne sont pas du tout d'accord avec le ministre des Transports sur la liquidation de leur société.
Dans une déclaration faite ce lundi à Radio Okapi, ils s'insurgent contre le propos de Justin Kalumba diffusé sur nos antennes la semaine dernière. Le ministre leur proposait avec leurs collègues des Cititrain d'aller chercher du travail à Transco pendant que les deux sociétés ne sont même pas liquidées et les arriérés des salaires non payés. Le porte parole du syndicat des agents de la Stuc souligne qu'ils tiennent au respect de la procédure et surtout être rétablis dans leurs droits. Mozart Louembe est au micro de Radio Okapi.
Nous, les travailleurs de la Société des Transports Urbains du Congo, nous sommes étonnés jusque-là parce que nous ne savons pas quelle est la motivation profonde qui amène notre ministère des tutelles à proposer la liquidation de la Stuc. La liquidation de la Stuc et Cititrain, ça ne se dit pas à la radio, à la télévision, selon la procédure normale. Le gouvernement doit siéger et statuer pour le cas de liquidation d'une société. Notre ministre connaît bien que la société, jusque-là, nous ne sommes pas liquidés. Nous ne sommes même pas notifiés concernant cette liquidation. Et pour dire que la Transco qui est là, les portes sont grandement ouvertes, les agents de Stuc ou Cititrain peuvent aller postuler. C'est quelle procédure? Nous n'avons jamais vu ça parce que nous sommes encore là. Si le gouvernement décide cette société est liquidée, il paye d'abord les décomptes finaux de tous les agents. Le personnel qui est encore là, il les transfère dans une autre société. Nous avons d'abord besoin de nous arriérer. Que ça soit payé, la subvention doit suivre. Et puis, nous devons être en activité, nous devons travailler.
Voilà, je rappelle que c'est bienvenu Bakoumania qui est notre invité pour analyser et commenter l'actualité économique de la semaine sur Radio Capi. Bienvenue, vous avez suivi cet agent de Stuc. C'est ping-pong entre le ministre et ses agents de Stuc et Cititrain sur la liquidation.
Écoutez, le ministre Kanumba, c'est un éminent juriste de ce pays. C'est une personnalité respectable en la matière. Mais c'était tout de même étonnant qu'il puisse avancer pareil argument. Ce qu'il faut faire, il faut commencer, si on ne veut plus de Stuc, on ne veut plus de Cititrain, il faut commencer par procéder par une liquidation. Et quand on dit liquidation, c'est-à-dire honorer les droits des différents intervenants, des différents créanciers de ces différentes entreprises. C'est ça l'état des droits. Hein. Le ministre n'est pas dans son droit de renvoyer les gens en chômage et leur demander d'aller postuler ailleurs. Mais c'est vraiment assurer l'insécurité de ces Congolais qui ont donné de leur énergie, de leur temps, de leur volonté pour que ces deux entreprises, ces deux défuntes entreprises puisse exister le temps d'un matin. Demain, le même aujourd'hui qui sont dans Transco, ils subiront le même sort. Hein, sinon, on ne peut pas tolérer que des Congolais vivent dans l'instabilité. C'est contraire à la loi, c'est contraire à la législation.
Pendant ces temps, bienvenue, ces travailleurs ne sont pas payés.
Mais justement, ils sont pas payés. Oui, là aussi, c'est aussi une turpitude de notre part. On n'aime pas travailler, mais on aime être payé. Comment voulez-vous, vous êtes dans une entreprise de transport en commun, vous n'avez pas de bus et vous vous attendez à ce qu'on vous paye. C'est quand même extraordinaire. Hein? D'où viendrait l'argent avec lequel on va vous payer? Il faudrait que l'on ait une culture de travail. On ne peut percevoir des salaires que lorsqu'on produit. Lorsqu'on ne produit pas, dites-vous, il n'y a pas de salaire. Mais cela n'exonère pas le gouvernement de son obligation de respecter la procédure, de respecter la loi. Parce que si on ne respecte plus la loi, on est dans la jungle.
Alors la liquidation oblige quoi? Il faudrait nommer un liquidateur, il faudrait...
Bien sûr. Le jour que le gouvernement a décidé de ranger tous les bus de Stuc et des City Train, ben il devait se dire que bon, Stuc et City Train ont des obligations. Et ces obligations, il est du devoir du gouvernement, c'est lui le gouvernement qui doit donner l'exemple, il est du devoir du gouvernement de satisfaire des intéressés, les travailleurs qui ont presté. Parce qu'ils ont contribué, ces gens, ils ont contribué d'une manière ou d'une autre au niveau de l'INSS. Vous voulez dire que tout ça tombe à zéro? C'est comme ça. Hein, ça, c'est l'anarchie. Ça, c'est la jungle. Et la jungle, ça ne peut pas marcher de pair avec un État moderne. Non, arrêtons.
Mais selon ces agents, dans une entreprise qui, comme Stuc ou également Transco en liquidation, les agents, même si l'entreprise est liquidée, ne doivent pas chercher du boulot ailleurs. Il faut qu'il y ait transfert selon eux. C'est ce qui oblige, je ne sais pas, c'est la procédure.
Non, je ne sais pas de quelle procédure. On parle de quoi?
Oui.
Ils voudraient que automatiquement qu'on puisse les transférer du côté de Transco. Ben ça, c'est les négociations. Le gouvernement a opté pour une autre formule, c'est-à-dire la formule de créer une nouvelle société et les invite donc à venir intégrer. Parce que si aujourd'hui les bus City Train Stuc sont sous des pierres. C'est parce que quelque part, il y a eu mauvaise gestion. On ne peut pas prendre les mêmes qui ont mal géré et les transvaser dans une nouvelle entreprise. Donc, dans une nouvelle logique. Le gouvernement a voulu que, dans la nouvelle logique, que ceux qui ont échoué ne puissent pas venir, mais ceux qui sont performants puissent venir concourir et gagner des postes s'il le faut. C'est pas mal. Mais cela ne veut pas dire, pour autant, que les droits acquis de ceux qui vont perdre leur emploi, ces droits sont bafoués, devraient être bafoués. Non, le gouvernement doit s'interdire justement de se cacher derrière cette formule pour comme on dit à Kinshasa dans le langage des Kinois, non, ce sont des choses qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est un gouvernement. Je pense que le Premier ministre Matata, qui est un grand technocrate, et le ministre Kalumba, qui est un éminent juriste de ce pays, je le répète, ils doivent conformer à la loi. Il n'y a que la loi. Tout le monde doit être sous l'autorité de la loi, y compris les ministres, y compris les membres du gouvernement.
Bon, déjà, le ministre a dit que les dossiers sur la liquidation des CD sociétés est sur la table du gouvernement.
Non, il aurait dû commencer par liquider. Les dossiers ne peuvent plus être sur la table. Aujourd'hui que Transco est créé, la liquidation devrait déjà avoir pris fin. C'est comme ça qu'on gère. Hein, c'est de cette manière-là qu'on veut parler de bonne gouvernance. Ce n'est pas que vous commencez par créer une société et maintenant le problème se pose, ça vous revient à la surface et vous commencez par liquider. Non, on doit arrêter ces choses-là. L'image que nous donnons de notre pays, ce n'est pas une bonne image quand on gère de cette manière-là. Et c'est ces deux personnalités que je vais les citer. Le Premier ministre Matata et le ministre du Transco, ils savent que ça ne se passe pas ainsi. Et ils savent qu'une opinion responsable ne peut pas soutenir pareille démarche.
Voilà, prenons notre deuxième sujet de la semaine. La Banque mondiale, la CEDI, satisfaite de ses différents projets financés en RDC.
Oui, François, une journée porte ouverte a été organisée mercredi dernier à Kinshasa au bureau de la représentation de cette institution de Bretton Woods. C'était pour présenter les secteurs d'intervention et les réalisations. Parmi ces projets, l'on peut citer deux qui sont liés au secteur de l'électricité en République démocratique du Congo, financé à hauteur de 1,2 milliards de dollars américains. Daniel Pembele nous parle ici du marché de l'électricité à la consommation domestique et son impact surtout pour les Congolais.
Ce projet va permettre d'abord de réhabiliter les machines qui sont à l'arrêt à Inga, dans les centrales d'Inga 1 et Inga 2. Et puis, avec l'énergie qui proviendra de machines réhabilitées, donc on aura, disons, de l'énergie additionnelle. Cette quantité d'énergie, une partie de cette quantité pourra être évacuée pour Kinshasa. Vous savez que pour le moment, à Kinshasa, nous avons un déficit énergétique. Parce que la ligne existante entre Inga et Kinshasa est statue saturé. Pour cela que il fallait nécessairement avoir une deuxième ligne entre Ingang et Tsala pour amener plus d'énergie. En plus de ça, dans le cadre toujours du projet de PM2, nous visons à l'électrification de certaines parties de la ville qui sont dans l'obscurité, qu'on qualifie de poche noire. Donc il y a Kimbanseke là. Nous sommes en train d'implanter un réseau. Le réseau est constitué de lignes, de cabines, tout ça. Bon, alors il faut avoir une source. La source, ce sera le poste de Kimbanseke. Et il y a aussi Mpassa. Nous allons aussi alimenter Mpassa. Les travaux sont en cours. Malueka, parce que dans Malueka, on a ciblé, en tout cas, une poche noire. Le projet se clôture au mois de juin 2016, le projet PM2. Nous avons commencé le projet il y a quelques années, en 2008. Et donc, nous sommes très avancés dans l'exécution de ce projet.
Je rappelle que c'était Daniel Pembele, superviseur de projet de distribution. En fait, bienvenue Bakoumania. Ce projet sur la consommation domestique nous intéresse. Donner du courant aux Quinois et la Banque mondiale finance.
Écoutez, laissez-moi sourire un tout petit peu. Et on le dit sans sourciller que le projet remonte à 2008. On est à 2014. Donc plus ou moins 7 ans pour que le projet puisse prendre forme. Et s'il faut procéder comme cela sur toute la République, 2 400 quelques kilomètres carrés, ben nous prendrons des siècles pour électrifier toute la République. Non, la Banque mondiale doit savoir que les procédures, les conditionnalités qui font traîner les choses telles que ça, c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Et la République, moi je me souviens, l'ingénieur, l'ex-ADG Yengo Daniel, c'était à l'hôtel Memling, il avait fustigé les conditionnalités de la Banque mondiale. Et il avait raison, monsieur Daniel, vous aviez totalement raison à l'époque. Aujourd'hui, on est en retard, on est très en retard. Les Congolais, combien de Congolais sont morts à cause de manque d'électricité? Combien de projets n'ont pu avoir lieu à cause de ce manque d'électricité? Non, je pense que la Banque mondiale, si veut réellement assister un pays comme la République démocratique du Congo, si la Banque mondiale veut réellement le développement, sortir les populations de la pauvreté, il faut mettre la main à la poche au moment qu'il faut. Il faut accélérer les procédures. Il faut arrêter carrément de multiplier les conditionnalités.
Mais la RDC, c'est un pays trop vaste. Elle seule ne va pas alimenter comme tout Kinshasa. Il y a également le Congolais qui doivent mettre la main dans la pâte.
Oui, le Congo est vaste. Il y a aussi d'autres secteurs qui nous laissent un peu le main libre. Moi, je sais ce qu'ils ont fait, de combien de fois ils ont empêché certains projets porteurs sur le barrage d'Inga, des projets de réhabilitation. Suite à la reprise des positions de la Banque mondiale, des correspondances existent, des projets ont été mis sous la table. On les a purement et simplement écartés. Et quand vous imposez de cette manière-là en disant que non, c'est tel projet n'est pas bon pour vous et que vous mettez 7 ans avant de commencer un début de matérialisation d'un projet, je crois que sur le plan moral, la Banque mondiale doit se dire qu'il a des choses à se reprocher. Il a des choses à se reprocher dans sa manière de conduire les procédures, dans sa manière de poser des conditionnalités, notamment à des pays fragiles comme la RDC.
Oui, bienvenue. Est-ce qu'il faut imputer la faute à la Banque mondiale si les Congolais meurent faute d'électricité, même si les procédures traînent?
Oui. Les responsabilités sont partagées. Évidemment, la première responsabilité, c'est celle du gouvernement. Ouais. Ça, c'est tout à fait logique. C'est le gouvernement qui doit assurer l'électricité. C'est inscrit dans la constitution de la République. Mais lorsqu'on a des partenaires comme la Banque mondiale qui vous conseillent, qui viennent avec de l'argent et ils posent des conditionnalités, moi, je pense que quelque part, nous devons nous affranchir des institutions comme la Banque mondiale. Je pense que vous avez totalement raison. Si le gouvernement continue à croire en la Banque mondiale, le gouvernement doit savoir que la population, elle n'y croit pas. C'est pas dit que la Banque mondiale ne fait pas de bonnes choses. On a des projets sur l'eau, ce sont des projets à impact visible. Mais sur l'électricité, la Banque mondiale a été plus que nuisible
par rapport à la RDC. Elle met du paquet même dans le projet Inga 3, ça vous le savez.
Oui, ils mettent du paquet, mais ils ont promis. Entre la promesse Et la réalisation, Sœur François, il y a un fossé parfois infranchissable de la part de la Banque mondiale.
Mais si la Banque mondiale pose comme parmi les conditionnalités, il parle de la bonne gouvernance.
Ben écoutez, mais c'est justement quand on veut ne pas donner des fonds, on parle de la bonne gouvernance. Parce que lorsque la Banque mondiale sort des fonds, ça ne passe pas par le trésor public. Il y a des projets bien déterminés, il y a des experts de la Banque mondiale qui suivent, ceux qui sont même parfois ils sont dans leur bureau à Washington, ils suivent à partir de là. La désignation des sous-traitants, parfois, elles sont imposées par la Banque mondiale. Donc, quand on évoque la question de la bonne gouvernance par rapport aux projets financés par des bailleurs, notamment la Banque mondiale, pour moi, ça a toujours été un prétexte fallacieux pour ne rien donner, en réalité.
Je rappelle que nous sommes dans Panorama économique et nous avons comme invité, bienvenue, Bakoumania. Il est responsable du desk investigation économie au groupe de presse Les Potentiels. Passons à notre troisième sujet de ce magazine économique. Donc, c'est cette plainte de l'association de maraîchers de Kisesso, ici dans la ville, province de Kinshasa, Paul.
Oui, François, cette association a déclaré mardi à Radio Okapi qu'elle n'est plus en mesure d'approvisionner les marchés de Kinshasa en légumes. Et pour cause, leur site, dit-elle, est spolié depuis plus de 2 ans. Elle sollicite l'intervention des autorités du pays pour délocaliser les unités de la police militaire qui occuperaient cet espace. Je vous propose d'écouter le représentant des maraîchers de Kisesso interrogé par Radio Okapi.
Nous avons été établis sur arrêté ministériel comme un site qui appartient au secondaire ou le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. 40 ans après aujourd'hui, le site est spolié. C'est plus de 500 familles qui sont chassées. On détruit tout, même les œuvres hydroagricoles sont détruites. Nous cultivons les légumes que nous produisons pour Kinshasa. Nous avons écrit au Premier ministre, nous avons écrit au Parlement, partout. Il n'y a pas une réponse positive. Nous demandons d'abord que nous soyons rétablis dans nos droits. C'est-à-dire que chaque maraîcher puisse travailler d'abord librement, sans la présence des militaires. Reprendre la fonction de nourrir Kinshasa dans chaque jour de la vie.
De quel militaire s'agit-il?
Il s'agit de la police militaire venant des camps Kokolo.
Contacté ce mercredi par Radio Okapi, le ministre de l'Agriculture et Développement Rural reconnaît le dossier. Jean-Chrysostome Vahamwiti affirme qu'il y a des dispositions légales en cours pour délocaliser tous ceux qui occuperaient les sites maraîchers.
Voilà, bienvenue. On va placer un commentaire. Vous savez, la spoliation de certains espaces inquiète. Ces maraîchers-là, ils nourrissent les quinoa. Il y a certains grands marchés qui sont approvisionnés en produits appelés bio. Ils s'inquiètent parce que leur espace est spolié.
Oui, ça c'est une affaire d'aménagement du territoire. Et on ne doit pas non plus planter n'importe où, même si on nourrit la population. Nous avions vu tout le long de la pépinière des Bandales. Les légumes qui étaient plantés là-bas étaient exposés aux plombs qui sortaient des véhicules. Ça, au lieu d'avoir des légumes bio, comme vous dites, nous avions des légumes toxiques qui apportaient des maladies dans nos assiettes. Donc, si l'État estime que certains endroits ne sont pas propices à une agriculture artisanale et qu'il y a des endroits beaucoup mieux indiqués, je pense que les maraîchers ont tout intérêt à se plier. L'État ne prend pas des décisions comme ça sans avoir réfléchi.
Mais cet espace, il l'occupe parce que c'est le gouvernement qui a offert. Parce que déjà le ministre reconnaît, il dit qu'il va délocaliser tous ceux qui occuperaient ces sites de marché.
Oui, mais c'est que la grande question, c'est de savoir ce que le gouvernement veut faire de cet espace-là. Si l'on veut construire des stations-service, on veut construire, comme on en a l'habitude, des flats, je pense qu'on ne ferait pas œuvre utile. Mais si cet espace peut être utile à quelque chose et que dans l'entretemps, on a trouvé d'autres espaces, je pense qu'un travail de sensibilisation des maraîchers s'avère important parce que la petite entreprise familiale permet justement de contribuer à la création des richesses. richesse. Je crois que le gouvernement, au lieu toujours de prendre des mesures draconiennes du genre délocalisation, du genre spoliation, je crois que le gouvernement devrait aussi prendre des mesures d'accompagnement qui vont dans le sens de localiser, hein, d'installer les maraîchers, par exemple, à des endroits où l'accès à l'eau est facilité, à des endroits où l'évacuation peut se faire aussi avec beaucoup de facilité. S'ils offrent déjà un espace pareil, je pense que les maraîchers n'hésiteraient pas un seul instant pour aller s'y installer. C'est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité. Nous avons suffisamment d'espace, on peut cultiver partout, on peut construire aussi partout, mais il faut que les gouvernements disent ici, c'est prévu pour la construction, là-bas, c'est pour la détente de la jeunesse, et un peu plus loin là-bas, c'est pour les habitations. Tant qu'on ne le dit pas, tant que tout le monde peut se lever un matin, improviser une activité lucrative, improviser une habitation, et que le gouvernement assiste et subit, je pense que là, on déplorera toujours des pareilles situations, des situations malheureuses. Donc c'est une affaire de gouvernance, une affaire de prévention.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Autre actualité de la semaine, en bref, province orientale, les viandes de petits bétail, notamment de chèvres, moutons et porcs, se font rares dans la cité de Wacha, territoire à plus de 700 km au nord-est de Kisangani. À l'origine, donc, la grève des bouchers de cette catégorie de bêtes depuis 10 jours suite à l'institution d'une nouvelle taxe sur l'abattage de bêtes. L'administrateur du territoire de Wacha déclare que les pourparlers sont déclenchés pour amener ce boucher à reprendre le travail.
Au Kosaï oriental, une délégation des investisseurs belges a séjourné pendant 4 jours à Mbujimayi, conduite par Jérôme Rox, attaché économique de l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo. Cette délégation est allée manifester le souci de la Belgique d'accompagner le Kasaï oriental dans les secteurs miniers et celui de l'énergie renouvelable. La délégation a visité les polygones de la minière Dubakwanga Miba et les installations de la société Sassim exploitant les diamants à Tchibwe dans le territoire de Niabi.
En bref, également aux travaux de construction des nouvelles aérogares internationales à l'aéroport de Ndjili, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo est allé constater mercredi leur état d'avancement. Ces travaux, dont le coût est évalué à 21 millions de dollars américains sur financement propre du gouvernement congolais, est exécuté par la firme française Alpha Airport. Ils seront finis au mois d'octobre prochain, promet la firme française Alpha.
À l'Équateur, hausse des prix du riz blanc depuis mercredi dernier à Bumba. La cité de Bumba est située à environ 900 km à l'est de Mbandaka dans l'Équateur. Selon les revendeurs du riz au marché de la cité, les prix d'un sac de 80 kg est passé de 45 000 francs congolais à 49 000 francs congolais en un jour.
Voilà, bienvenue Bakoumania, un commentaire à placer. Nous avons parlé de cette grève de bouchers à Wacha. Oui. Ils s'insurgent contre une nouvelle taxe.
Oui.
Nous avons également parlé de cette visite de Matata Ponyo à l'aérogare d'Ndjili, ses travaux financés à hauteur de 21 millions de dollars américains. Et placez un commentaire, j'y
abonde. Oui, je prendrai volontiers les deux sujets. J'ajouterai le sujet sur le riz de Bumba parce que c'est aussi intéressant. Par rapport à cette problématique des taxes c'est sur les vivres, il n'y a pas qu'à Wacha, il y a aussi à Kinshasa. Ici à Kinshasa, les vivres frais ont connu une flambée de prix telle que on se pose bien la question, est-ce que un pays grenier comme la RDC peut connaître des flambées de prix des denrées alimentaires de base à cette allure? Et on parle de croissance pendant ces temps. Peut-être que parce que la loi de l'offre et de la demande est en train de jouer. Moi, je crois que il y a des programmes agricoles qui ont été lancés à travers les provinces, mais c'est le moment de sentir les effets. Si réellement ce plan, ce programme était porteur, je pense que que l'absence d'Orgaman, qui était le plus grand importateur de vivres frais, n'aurait pas provoqué cette flambée des prix. S'il y a cette flambée des prix, cela veut dire que les déséquilibres est encore là. Alors, par rapport à la visite du Premier ministre, c'est une bonne chose qu'on ait des aérogares de qualité. Moi, je crois que la première priorité, ce ne sont pas des aérogares. À mon sens, la priorité, ce sont des pistes, les outils d'assistance à la navigation aérienne. Il faut commencer par là. On a noté il n'y a pas longtemps que la RVA manquait d'onduleurs. C'est extraordinairement grave. Il n'y a pas eu de démission et il n'y a même pas eu de sanctions. Hein? Une entreprise comme la RVA qui manque d'onduleur, un avion en phase d'atterrissage et le courant est parti, l'avion doit redécoller. Non, ce sont des choses qu'on ne peut voir que chez nous.
La situation a été réglée vite.
Juste parce qu'il y a eu, admettons qu'il y ait eu des accidents, c'était des pertes en vies humaines. Hein? Et on pouvait bien prévoir ça. On pouvait bien, dès le départ, on pouvait faire en sorte que la RVA se dote d'onduleur. Pour terminer par rapport au riz de Bumba, hein? Nous, quand on grandissait, quand on voulait manger du vrai riz, hein, ben c'est le riz de Bumba. C'est quand même curieux qu'à Bumba, le riz, le sac de riz, revienne à 45 000 francs congolais, c'est-à-dire à peu près 50 dollars. Ça veut dire que déjà à Bumba, ça coûte très cher. Conséquence, ça ne vient même plus ici.
Il se vend maintenant à 49 000, il était à 45.
Ça, c'est à Bumba. Oui. Hein, c'est déjà, on a dépassé le cap des 50 dollars. Oui. Ici, à Kinshasa, on ne voit même plus le riz de Bumba.
Panorama économique, reportage.
Dans le Bas-Congo, le pont Loufou qui relie le marché frontalier de l'Angola et de la RDC par le territoire des Songololo s'est coupé en deux depuis le lundi dernier.
Voilà, conséquence, les transactions entre l'Angola et la RDC sont fortement affectées. Les opérateurs économiques crient au secours. Guy Roger Nyampala nous en dit plus.
Ce grand marché reçoit au moins 200 véhicules et 20 000 personnes selon des sources locales. Il est l'un des plus importants centres de négoce du pays qui attire un monde fou des commerçants du Bas-Congo, de Kinshasa, de Bandundu, voire même des deux Kassai. L'arrêt du trafic sur cet axe routier est un manque à gagner, non seulement pour la province du Bas-Congo, mais également pour le pays tout entier. La DGDA, l'OCC et la DGRAD ne perçoivent plus des taxes et frais de douane comme auparavant. Les transactions angolaises ne sont pas également épargnés à travers leurs camions poids lourds qui font le trafic entre Luanda et l'enclave de Cabinda via Loufou. Ces véhicules poids lourds sont aujourd'hui immobilisés des parts d'autres de la frontière. Le croulement de ce pont est intervenu le lundi dernier lors du passage d'un camion poids lourd qui transportait 1200 sacs de ciment estimés à 80 tonnes alors que la capacité du pont est de 30 tonnes. Ce pont long de 30 mètres a été construit en 1975. Depuis, il n'a jamais été réhabilité. Les opérateurs économiques exigent sa réhabilitation immédiate pour leurs affaires. Le ministre provincial en charge des transports et voies de communication du Bas-Congo a effectué le mardi dernier une descente d'inspection sur place. Matadi, Guy Roger Nyampala et Code Économie.
Voilà, merci Guy Roger Nyampala. Nous allons terminer par là, par ce reportage. Le pont Loufou coupé et c'est un manque à gagner. La DGDA, toutes les régies financières n'arrivent pas à percevoir les taxes. Oui, qu'est-ce que vous en dites?
Écoutez, moi, j'ai toujours pensé que n'attendre que les taxes de la DGDA, c'est-à-dire la taxe au niveau des frontières, ça ne permet pas à un État de se développer, à un État de prétendre à l'émergence. Il faut éviter de consacrer les énergies seulement pour des rentes, hein, des rentes de positionnement. Mais je suis aussi d'avis que pour permettre une fluidité des échanges entre les deux pays, il faille que du côté congolais on puisse faire vite.
Beaucoup de Congolais qui partent de Kinshasa par exemple, oui, de toutes les provinces pour aller s'approvisionner à Loufou.
Bien sûr, c'est un marché important. Loufou, c'est un point stratégique pour la République démocratique du Congo, pour le sud de la République démocratique du Congo. Donc c'est à prendre avec beaucoup de conscience, c'est à prendre avec beaucoup de responsabilités et de relever ces ponts le plus rapidement possible. Pendant ces temps, mais je pense qu'il faut toujours créer des moyens pour qu'à l'interne, nous puissions nous suffire. Il faut s'auto-suffire à l'interne. Il faut fournir des efforts, toujours des efforts, pour que l'extraversion de notre économie s'arrête un jour. Il faut que cette volonté s'amorce par quelqu'un, par un gouvernement. Il faut que cette volonté de faire confiance aux Congolais puisse commencer à nous habiter. Nous tourner toujours vers l'extérieur et attendre la manne douanière, je pense que si on on ne vit que de cette manière-là, on ne conçoit notre avenir que de cette manière-là, nous avons encore des beaux jours dans le sous-développement.
Voilà, c'est la fin de Panorama économique pour ce samedi. Je rappelle que l'on recevait Bienvenue Bakoumania, il est responsable du desk économie et investigation au groupe de presse Le Potentiel. Nous allons donc nous retrouver, Paul, le week-end prochain pour un nouveau numéro de Panorama. Mais déjà ce lundi, nous avons rendez-vous avec les auditeurs.
Tout à fait, déjà lundi à 18h15, sans ça.
Bienvenue Bakoumania, merci.
C'est à moi qui vous remercie.
Nicole Ngaka est à la coordination, Héritier Sidiakala est à la technique. Retrouvez cette émission sur www.radioocapi.net. Au revoir.